Décryptage. Amélie Beaucourt.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. Cela fait un mois, jour pour jour, que Donald Trump s'est réinstallé dans le bureau ovale. 30 jours où il est passé maître dans l'art d'occuper l'espace médiatique à grands coups de déclarations tonitruantes et de décrets exécutifs signés par centaines. Stratégie redoutable puisque le monde entier ne parle plus que de lui. Mais laissons de côté la forme un instant pour se focaliser sur le fond. Comment les électeurs, partisans de Trump ou opposants, ont vécu ce premier mois parmi les réformes qu'il a annoncées, lesquelles ont déjà eu un impact sur la vie de celles et ceux qui vivent sur le sol américain? Quelle place ont prises les oppositions politiques et militantes? Pour en parler en ligne de Washington avec nous, David Thompson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes envoyé spécial permanent de RFI aux États-Unis et en studio avec moi, Anne Desine, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des questions politiques et juridiques aux États-Unis, professeur émérite à l'Université Paris-Nanterre. On est ensemble pour 20 minutes de décryptage.
Starting on day one, we will end inflation and make America affordable again. To bring down the prices of all goods, we will stop the Biden-Harris war on American energy and we will drill, baby, drill.
Dès le premier jour, nous mettrons fin à l'inflation, nous baisserons les prix de tous les biens et on va se mettre à forer. Petit résumé des propos que Donald Trump tenait devant ses électeurs avant l'élection. Promesse sur laquelle il s'est fait élire, notamment puisque le coût de la vie était et est toujours la préoccupation première des Américains. Est-ce que parmi le florilège de mesures prises en 30 jours, Anne Desine, est-ce que cette promesse-ci a été tenue?
Pas du tout. Et pour le moment, les électeurs n'y en veulent pas. Les sondages, la semaine dernière, le créditaient de plus de 50% des soutiens. C'est en train de baisser parce que l'inflation est en train de reprendre. Et elle ne peut que reprendre parce qu'avec les raids sur les migrants, les sans-papiers, ceux-ci se terrent et ne consomment plus. Et donc, quelque part, il y a des villes ou des magasins qui sont en train de perdre leurs clients et qui vont peut-être mettre la clé sous la porte. À un niveau plus large, la menace aussi de droits de douane, les menaces de représailles des autres pays risquent d'augmenter l'inflation. Donc, en fait, effectivement, cette promesse majeure qui a sans doute fait basculer beaucoup d'électeurs qui ont trouvé que l'administration Biden n'y prêtait pas suffisamment attention, sont en train de se rendre compte que le prix des œufs a été multiplié. Les œufs, c'est l'emblème qui montre qu'il ne s'y intéresse pas. D'ailleurs, il a commencé à l'admettre. Oui, ça va être un peu difficile, mais c'est pour une bonne cause. Et après, tout ira bien, comme toujours. Tout ira bien grâce à lui.
On va reparler du prix des œufs dans un instant parce que effectivement il y a quelque chose qu'il faudra souligner autour de ça et du ministère de l'Agriculture d'ailleurs. En attendant, David Thompson, vous êtes en ce moment au CPAC, cette convention où se réunit le gratin de la droite américaine près de Washington avec, on l'imagine, des électeurs de Donald Trump. Est-ce que vous avez pu discuter avec eux et est-ce que leur vie quotidienne a changé ces 30 derniers jours?
Ce qui a changé, c'est surtout leur état d'esprit. Ici, c'est vraiment le grand rassemblement ultra-trumpiste de tous les partisans les plus durs du président. Ils sont beaucoup. Et pour eux, c'est l'euphorie générale. J'étais tout à l'heure devant l'enregistrement en direct du podcast de Steve Bannon, l'idéologue en chef de cette droite MAGA, Make America Great Again. Et ce qu'il disait, c'est tout simplement, pour nous, c'est Noël tous les jours. Toutes les mesures les plus dures qui avaient été promises par Trump sont mises en place les unes après les autres. Les partisans de Trump sont absolument extatiques devant le travail de démantèlement de l'État fédéral entrepris par Elon Musk sous la supervision de Donald Trump. Ils sont absolument ravis de la répression très dure qui est menée contre les migrants. Ils ont eu les chiffres des douanes qui montrent qu'effectivement il y a un effet Trump très net sur le nombre de franchissements illégaux de la frontière. Donc c'est un moment de célébration. Presque les partisans de Trump n'en attendaient pas tant. Ils sont presque eux-mêmes surpris que toutes les promesses de Trump soient à ce point lancées, mises en place. Et la réalité, c'est vrai que l'inflation augmente, mais si vous voulez, les partisans de Trump sont dans une telle réalité parallèle, un tel écosystème hermétique, que c'est comme si cela n'avait aucun effet sur leur enthousiasme et sur cet état de félicité qui est le leur depuis un mois.
Alors, c'est justement là qu'on va reparler du prix des œufs, qui a augmenté donc aux États-Unis, des prix qui ont explosé dans certains supermarchés. Symbole pour certains Américains que l'inflation n'a pas du tout diminué. En réalité, on sait aussi que cette hausse des prix, elle est liée à des pénuries à cause des ravages qu'a fait la grippe aviaire, mais aussi des ouragans dans le sud-est et des incendies en Californie. Sauf que, au même moment, justement, dans cette grande purge de l'administration fédérale dont vous parliez, David Thompson, au ministère de l'Agriculture, des fonctionnaires qui travaillaient justement sur cette grippe aviaire ont été accidentellement licenciés. Et c'est un autre fonctionnaire qu'on entendait ce matin sur RFI qui se plaignait de ces licenciements. Il fait partie du Bureau national des relations au travail. On l'écoute tout de suite.
Il y a d'énormes conséquences dans les effectifs. Dans mon agence, ils ont viré le conseiller général et ils ont viré un membre du conseil. Donc on n'a plus assez de monde pour prendre les décisions. Donc on ne peut plus faire appliquer le droit des employés à s'organiser dans le secteur privé à travers le pays. Et pour les fonctionnaires fédéraux en général, c'est tout simplement le chaos. La sécurité de l'emploi et les conditions de travail sont passées à la poubelle. Donc c'est vraiment une série d'événements tragiques. Ça s'est fait avec une vitesse et une illégalité qui sont un peu surprenantes. Je ne sais pas combien il y a de décisions de justice jusqu'ici qui leur disent que ce qu'ils font est illégal, mais il y en a eu quelques-unes et en fait ils les ignorent tout simplement et ils appliquent leur programme sans se soucier de sa conformité à la loi. C'est choquant et c'est effrayant.
On l'a entendu, donc des fonctionnaires licenciés par centaines et l'architecte de cette purge, c'est Elon Musk. Anne Desine, est-ce que vous aviez été surprise de le voir débarquer comme ça presque au gouvernement?
J'ai fait preuve d'une certaine naïveté parce que je pensais que le droit résisterait mieux. Et je n'ai pas pensé qu'il licencierait, il limogerait en violation du droit de ses fonctionnaires, hein, qui ont des garanties, qui ne peuvent pas être limogés de la sorte. Tout le monde. Qu'il s'attaque à ceux qui s'occupent de la diversité, de l'égalité, de la non-discrimination, bon, c'est une chose, c'est une guerre idéologique. Mais là, ils ne pensent absolument pas, dans leur désir de frapper fort, de créer cet état de sidération, manifestement, ni Musk ni Trump n'ont réfléchi aux conséquences. Et les conséquences, c'est qu'ils ont limogé des contrôleurs aériens, ils ont limogé ceux qui s'occupent d'essayer de contrôler les conséquences de la grippe aviaire. À un moment, ils ont même limogé ceux qui s'occupent de la sûreté nucléaire. Il semblerait qu'ils aient réussi à récupérer certains de ces personnels de haut niveau pour assurer la sécurité nucléaire. Et donc, ils sont un petit peu comme des apprentis sorciers, et le jouet est en train de leur échapper, sauf que c'est la destruction de toute la bureaucratie qui apporte des services aux Américains. Donc, je suis entièrement d'accord, ce qui a été dit pour le moment, les MAGA, la casquette rouge, sont ravis. C'est fantastique, ils font tout ce qu'ils ont promis. Mais je pense qu'il va y avoir des conséquences, parce qu'on ne peut pas... Musk a limogé 80% des salariés de Twitter. Le résultat, c'est que X a perdu de sa valeur, c'est clair. Et il s'imagine qu'il peut faire la même chose avec l'État fédéral. L'État fédéral ne va pas perdre de valeur boursière, par définition, mais il y a un certain nombre de services sur lesquels les Américains comptent. Ils ne se rendent pas compte que cette administration, que les Républicains leur ont appris à détester en disant qu'elle gaspillait, que c'était toujours pour aider les familles noires qui ne travaillent pas et que ça prend l'impôt des Blancs qui, eux, sont pleins de mérite, qu'ils dépendent de cette administration fédérale pour leur retraite, pour leur santé, pour la sécurité aérienne, etc. Donc je me demande à quel moment il va y avoir quand même finalement un petit pivot dans l'opinion publique.
Parce que ce qui avait été dit à l'origine, enfin ce qui était peut-être ce qui constituait ce mythe, c'était qu'on allait licencier des fonctionnaires qui étaient ni plus ni moins que des employés cachés derrière leur écran d'ordinateur, et c'était résumé à ça. On ne se doutait pas qu'il y avait, enfin on ne se doutait pas, les Américains peut-être qui ont voté pour Trump n'avaient pas en tête que ça allait
perturber complètement le fonctionnement. Et en plus, on leur a menti sur les chiffres parce que en fait, tout ceci est dissimulé derrière l'idée que l'on va diminuer le déficit budgétaire. Et donc, en fait, il y a simplement 2,2 millions de fonctionnaires, ce qui est très peu pour la population américaine. En revanche, il y a tout un tas de sous-traitants privés qui enrichissent les secteurs de la défense et donc des boîtes privées. Donc ça, c'est le premier mensonge qui, pour le moment, n'a absolument pas pénétré les MAGA et une partie de l'opinion. Et l'autre, c'est qu'effectivement, il y aurait des paresseux partout, mais quand il y a simplement 2 millions de fonctionnaires, a priori, la plupart font leur travail.
C'est la question que j'allais vous poser, David Thompson, ces licenciements massifs, est-ce que ça permet réellement de trouver l'argent qui a été promis par cette purge. Je crois que Elon Musk avait promis de trouver 1000 milliards.
2000 milliards.
2000 milliards de dollars. Est-ce que, comme l'ont souligné certains députés américains démocrates, il ne faudrait pas aller chercher dans d'autres agences qui, elles, ne sont pas concernées par les purges ?
L'important pour l'administration Trump, c'est pas forcément la réalité des choses, c'est le message que cela renvoie à la base électorale. Et pour l'instant, le message passe parfaitement. La base électorale républicaine, qui est en fait une base républicaine MAGA, c'est-à-dire très dure en faveur du président Trump, une base finalement assez radicalisée, elle a été alimentée avec cette idée depuis plusieurs années maintenant du deep state, une espèce de Léviathan conspirationniste qui est accusé de tous les maux. Le deep state, ce sont ces fonctionnaires non élus, l'État profond, qui seraient totalement inféodés aux démocrates, qui seraient tous totalement corrompus et qui seraient tous inutiles pour les États-Unis. Aujourd'hui, la majorité des républicains sont convaincus de cela. Donc, quand Trump arrive avec Elon Musk en disant « Nous allons éradiquer ce mal » et qu'en plus, ça va vous rapporter de l'argent, tout le monde applaudit. Donc, personne n'est en train d'aller chercher dans le détail des chiffres si ça, c'est la réalité ou pas, si vous voulez. C'est vraiment une sorte de formule miracle, incantatoire, que Trump donne à ses partisans. Même chose avec les tarifs douaniers. Il explique que les coupes d'impôts et son programme qui est... absolument irréaliste hein, pour de la vie. Il y a un consensus économique des économistes pour dire que ce programme est inapplicable en termes de coûts. Trump dit, mais si, bien sûr, tout va fonctionner puisque nous allons pouvoir le financer en supprimant, en rabotant, en sabrant les dépenses brutalement de l'État fédéral. Je veux dire, du jour au lendemain, l'Agence fédérale américaine pour le développement, l'USAID, a été fermée. Musk arrive avec ses jeunes ingénieurs, cette trentaine, quarantaine de jeunes ingénieurs. Il supprime tout ça dans l'opacité la plus totale et tout le monde applaudit parce que Trump explique que cela va répondre à tous les problèmes financiers des États-Unis, réduction du déficit, baisse d'impôts. Et là, il vient même de dire hier qu'il allait donner 20%, il allait reverser 20% des économies réalisées par Elon Musk dans ses coupes budgétaires. Il allait en redistribuer 20% aux Américains. Comment ? Personne ne le sait, mais en tout cas, le message passe.
Mais est-ce qu'Anne Desine, justement, ses électeurs ne vont pas finir par demander des comptes ?
Même s'il remboursait 20%, pour le moment, Musk a économisé 50 millions et non pas 2000 milliards. Pour une raison simple, c'est que le budget américain, c'est 6000 milliards de dollars. Là-dessus, les deux tiers, ou pas tout à fait, sont des dépenses obligatoires, c'est-à-dire le financement des retraites, le financement... de la santé pour les plus de 65 ans, Medicare, pour les démunis, Medicaid. Et cela, pour le moment, Trump a promis de ne pas y toucher. Donc, si on s'intéresse simplement aux dépenses discrétionnaires, c'est un peu plus de 2 000 milliards de dollars, il faudrait à ce moment-là supprimer tout le budget de la défense, par exemple, 1 000 milliards de dollars, grosso modo, enfin 950 milliards de dollars, et puis les intérêts de la dette, aussi à peu près 950 milliards de dollars, ce qui, bien sûr, n'est pas possible. C'est-à-dire que cette promesse de baisser le déficit budgétaire ne peut pas fonctionner parce que ce déficit, il augmente à la fois par les baisses d'impôts des républicains, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui tirent sur le système des retraites, sur le système de santé, et que cela s'est réévalué chaque année. Et cela, personne ne le dit. Et comme ceux qui ont voté Trump, qui portent la casquette rouge, sont enfermés dans leur bulle d'information, leurs réseaux sociaux, Fox News, etc., on ne leur dit pas ces vrais chiffres, mais il suffirait qu'il y ait ces vrais chiffres pour qu'ils comprennent que tout ceci, c'est de l'agitation, c'est du spectacle médiatique.
Parmi les promesses faites aux électeurs, il y a notamment l'expulsion de milliers de personnes sans papier. Vous revenez justement de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, David Thompson. On va entendre un extrait de ce qu'on a pu écouter il y a quelques jours sur RFI.
Un groupe de migrants vient de traverser la frontière mexicaine en courant à toutes jambes. Les quatre clandestins sont immédiatement pris en chasse par les agents du Borstar, une unité d'élite de la police anti-immigration américaine. Une course-poursuite s'engage dans la montagne escarpée d'El Paso, ville frontalière avec le Mexique. Rapidement, l'un des migrants est rattrapé, plaqué au sol sans ménagement, menotté par trois agents pendant qu'un quatrième exulte au loin en criant « C'est comme ça qu'on reprend le contrôle de notre pays ».
J'en poursuivais trois autres. J'en ai attrapé un. Les deux autres ont réussi à s'enfuir. On les attrapera la prochaine fois. On va continuer à les poursuivre. On va continuer à reprendre le contrôle de notre pays. Ça fait quatre ans maintenant qu'on patrouille dans ces montagnes. C'est absolument hors de contrôle. Maintenant, l'hémorragie s'est un peu arrêtée. Mais pas totalement, comme vous pouvez le voir.
Que Dieu bénisse le président Trump, ajoute ce policier d'élite dans un chuchotement à peine voilé. En théorie, sa fonction lui interdit toute prise de position politique. Le migrant menotté est quant à lui placé à l'arrière du SUV noir banalisé du Borstar. Il faut partir vite car de l'autre côté de cette route de terre qui sépare les deux pays, les passeurs des cartels sont là. À quelques mètres à peine, ils jettent des pierres, profèrent des insultes. Preuve que la frontière États-Unis-Mexique est encore loin d'être sous contrôle, malgré le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche.
Un récit d'une véritable chasse à l'homme. C'est le retour de votre reportage, David Thompson. Qu'est-ce que vous avez pu observer à cette frontière mexicaine? Qu'est-ce qui a changé peut-être ces 30 derniers jours à ce niveau-là?
Ce qui a changé, c'était assez manifeste. Là aussi, j'ai vu des agents de la police des frontières totalement galvanisés. J'ai effectivement assisté à une chasse à l'homme, en fait, à la frontière. Ces agents militarisés couraient après des migrants en criant des slogans de Donald Trump. Nous allons reprendre notre pays, nous allons... Ils poursuivaient les migrants en leur criant ça et en les arrêtant de façon très brutale. Et quand je leur ai demandé, au départ, ils n'avaient pas vu que j'étais là en tant que journaliste, je leur ai dit, mais vous êtes pas gênés que je passe ça à la radio? Ils me disaient, sous Biden, on vous aurait dit tout de suite, jamais de la vie, parce que on aurait tout de suite été sanctionné. Maintenant, c'est l'inverse. On veut que vous passiez ça parce qu'au contraire, ça va nous obtenir une promotion aux yeux de notre hiérarchie. C'est vous dire le changement culturel à tous les niveaux et jusque dans le contrôle des migrants et dans l'arrestation des migrants à la frontière. Je vous invite, j'invite peut-être pour comprendre nos auditeurs à aller jeter ne serait-ce qu'un œil au compte Twitter officiel de la Maison Blanche, qui diffuse les portraits de migrants arrêtés et s'en félicite comme d'une grande victoire. Ça aurait été absolument inimaginable sous Joe Biden. Il y a une vidéo qui a été postée encore une fois par le compte officiel de la Maison Blanche il y a quelques jours. On voit une police des frontières mettre les chaînes aux pieds à des migrants. Imaginez ce que ça veut dire dans un pays qui est marqué par l'histoire de l'esclavage, le symbole que ça renvoie. C'est des choses qui, en fait, sont absolument inimaginables, qui étaient inimaginables il y a encore un mois. Donc, tout change très, très vite ici. Et presque, on a vraiment l'impression, si vous voulez, qu'on est dans un changement de régime aux États-Unis, que les choses sont en train de changer à tel point qu'on change de régime. Et il y a une tentation au sein des partisans de Donald Trump, une tentation antidémocratique, disons-le, de plus en plus explicite, de moins en moins cachée. C'est sans doute pas un hasard non plus si on est dans. C'est à ce moment-là que Donald Trump se tourne vers des hommes comme Vladimir Poutine et se détourne des alliés historiques des États-Unis que sont les pays européens.
Merci David. Un dernier mot peut-être de votre part, Andesi. Il nous reste une toute petite minute.
En fait, ce sont des politiques tous azimuts qui ne vont réussir qu'en partie, car malgré toute cette gesticulation et ce changement de mentalité qui est quand même, on savait que Trump traite les migrants de vermine, d'animaux, mais on les traite effectivement comme des animaux. C'est quelque part la violation de tout ce qui est le respect pour la personne humaine, les droits humains. Et en fait, cela ne va pas changer grand-chose parce qu'il est impossible d'expulser 11 millions d'immigrants. Donc en fait, les gens de la frontière se font plaisir, ils traitent les migrants comme des animaux, ils font de la chasse, il n'y a pas d'autre terme. Et il y a effectivement un certain nombre de migrants qui sont arrêtés, d'autres qu'avec force médias on a expulsés vers certains pays. Mais dans l'ensemble, ce sont des gouttes d'eau dans la mer, mais qui changent complètement la culture et, à mon humble avis, pas dans le bon sens.
Anne Desine, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes aussi l'autrice de « Les juges contre l'Amérique » aux presses universitaires de Nanterre. L'émission touche à sa fin. Lundi, vous retrouverez Véronique Rigolet à ce micro.